Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la radio à la carte. Oiseau blanc, Philippe Trousselard, bonjour. L'oiseau blanc avec aujourd'hui Jean-Michel Verne. Bonjour, monsieur Jean-Michel Verne, et si vous le permettez, je vous appellerai par la suite Jean-Michel. Merci d'être avec nous en direct, malgré les contraintes certainement vécues sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, considérant les mouvements sociaux qui sont en cours. Merci par ailleurs à monsieur Duperron, votre responsable de relations avec la presse, qui est présent avec nous dans ce studio, d'avoir verrouillé ce rendez-vous avec cordialité et je dirais aussi avec tant de certitude. Je vous le disais, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes sur Esprit Occitanie, la radio à la carte. Aujourd'hui, nous allons relever une nouvelle carte dans cet oiseau blanc, celle de l'aéroport. Cette navigation aérienne dont nous avons déjà parlé dans l'émission, nous avons parfois tendance à la focaliser dans l'air. D'ailleurs, cet oiseau blanc qui la symbolise, il est en vol dans son logo. Mais comme un avion, il doit se poser avant d'entamer un nouveau vol. Une différence, cependant, entre l'oiseau et l'avion, c'est que l'avion doit utiliser une plateforme existante. En outre, il n'est pas le seul à s'y poser, à s'y déplacer, à en décoller. Quant à la gestion des passagers, il s'agit bien d'une problématique particulière des aéroports. Alors oui, l'aéroport est partie prenante du contexte de la navigation aérienne. Voilà bien pourquoi, Jean-Michel, nous sommes très intéressés par votre expérience, votre vécu, dans vos fonctions de président du directoire de notre aéroport de Toulouse-Blagnac et bien évidemment par l'avenir de cet aéroport. Mais avant de poursuivre, nous voudrions connaître un peu mieux cet homme qui est né au centre de notre belle région Occitanie, à savoir à Mazamet. Comment êtes-vous arrivé dans cette gestion de l'aéroport de Toulouse-Blagnac depuis, si je ne me trompe pas, janvier 1999 ?
Oui, Philippe, merci et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, c'est vrai que je suis du coin, puisque je suis né à Mazamet. J'ai fait mes études à Mazamet, où mon père était professeur. Et comment je suis venu à l'aviation, de façon relativement simple et classique, si j'ose dire. Pas de vocation petit, je veux dire, je n'ai pas eu le déclic, je ne voulais pas faire tout forcément, je n'avais pas de métier de l'aviation, mais ça s'est trouvé un peu comme ça. J'ai fait mes classes préparatoires ici au lycée Fermat, à côté de chez vous. Et donc, à la sortie des classes préparatoires, il y avait un certain nombre, comme tous les gens qui passent des concours, on est collé à certains, reçu à d'autres, et j'ai fait le choix à ce moment-là de rentrer à l'ENAC, ici, l'École nationale d'aviation civile, et donc ça fait quand même quelques temps aujourd'hui, c'était en 71, donc c'est là que j'ai découvert, on peut dire, l'aviation civile, le transport aérien, la navigation aérienne. Et c'est vrai que, depuis, je pense que je ne suis pas le seul, tous les gens qui travaillent dans le secteur de l'aviation et du transport aérien, une fois qu'on y est dedans, on en devient un peu amoureux, si j'ose dire, et passionné. Et puis voilà, ça a été mon cas. J'ai fait une carrière à la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, dans la navigation aérienne, dans la certification des avions. Et j'ai eu l'opportunité, après, j'étais en exil à Paris pendant quelques années, et j'ai eu l'opportunité d'être retenu par la Chambre de commerce en fin 98, pour commencer début 99, comme directeur de l'aéroport ici à Toulouse-Blagnac. Et bien sûr, je suis venu avec un grand plaisir. Je ne connaissais pas à l'époque les parties aéroportuaires, c'est-à-dire les fonctions propres à un aéroport d'accueil de passagers. Mais par contre, j'avais, une bonne connaissance du transport aérien et de l'organisation qui tourne autour du transport aérien. Et puis, comme c'était à Toulouse et que j'étais à Paris, ça m'a rapproché de mon pays. Et c'est avec plaisir, je dois dire, avec le recul, que j'ai quitté la vie parisienne pour goûter aux joies de la vie toulousaine. Et depuis, eh ben, voilà, depuis, je suis resté à l'aéroport. J'ai fait aussi, comme l'aéroport était géré, j'ai été recruté par la Chambre de commerce, hein, qui gérait l'aéroport à cette époque-là. J'ai été aussi directeur général de la Chambre de commerce. J'ai cumulé les deux fonctions avec Claude Terrazzoni, une figure de Toulousaine, de l'aviation, quand il était président de la Chambre. Et je suis revenu, au gré des modifications, je suis revenu à l'aéroport en 2009. Et donc maintenant j'y suis depuis presque 20 ans. Voilà. Avec un grand plaisir. C'est-à-dire que c'est vrai que l'aéroport, c'est le lieu où se rencontrent à la fois les avions, les passagers, où toutes les problématiques, à la fois de service, à la fois d'aménagement du territoire, de servir son territoire, sont présentes. Donc, c'est un métier passionnant.
Je dirais que pour vous avoir croisé dans d'autres lieux, le travail est pour vous, Jean-Michel, visiblement toujours un plaisir. Je me permettrai de revenir quand même sur votre cursus personnel et puis le début de votre activité professionnelle. Bien évidemment, quand vous êtes arrivé à Toulouse, vous avez redécouvert l'aéroport. Mais entre-temps, pour avoir fouillé un peu dans votre curriculum vitae, j'ai vu que vous aviez par exemple créé l'aéroclub de l'ENAC. Après, vous êtes reparti, vous avez été affecté au centre régional de la navigation aérienne de Bordeaux. Vous y avez créé l'aéroclub de Surmérignac, je crois
Oui,
également. Et vous pouvez
c'est vrai.
nous en dire plus un petit peu, parce que bon,
Mais
là.
c'est vrai que j'ai eu la chance dans ma promotion d'avoir quelqu'un qui était passionné, qui était pilote lui-même avant de rentrer à l'ENAC, puisque nous avons été formés au pilotage à l'ENAC, comme tous les élèves ingénieurs. Et donc, j'ai pris la passion de l'aviation à l'ENAC et avec lui. Il s'appelle toujours Jean Bossy. Nous avons créé l'aéroclub de l'ENAC, qui aujourd'hui est un bel aéroclub qui n'a pas du tout la même dimension. On avait commencé bien sûr avec un avion qui s'est cassé. Enfin, bref, c'était l'histoire d'un aéroclub. Et donc ça m'a donné, avec l'expérience d'être pilote, la passion de l'aviation que j'ai exercée pas en tant que pilote, c'était pas notre métier de base, mais aussi à la fois pour le métier et pour plaisir au sein de l'aviation civile. Et donc j'étais amené à Bordeaux à créer aussi un aéroclub en marge des activités, un aéroclub des personnels de l'aéroport de Mérignac à l'époque. Donc j'ai toujours pratiqué, je continue à voler. On a un aéroclub à Blagnac qui regroupe les personnels de qui travaillent sur la plateforme. Et c'est avec plaisir que, de temps en temps, quand j'ai la disponibilité, on va faire un tour dans les airs pour se rappeler les règles fondamentales.
Il montre bien combien l'aéroport de Blagnac est ouvert, puisqu'il y a encore des aéroclubs et on peut
Voilà.
encore avoir
Voilà.
cette activité sur l'aéroport.
Alors, on peut les avions légers donc, sont autorisés à Blagnac. C'est un peu compliqué quand même, compte tenu du trafic un peu particulier. Et effectivement, on a un aéroclub qui est un petit aéroclub, mais qui regroupe les personnels qui sont présents sur la plateforme, qui est intéressant parce que ça regroupe les divers métiers de l'aéronautique.
Alors, il y a aussi un point de votre carrière qui est assez particulier. Vous avez exercé en Nouvelle-Calédonie à une période politique un peu délicate.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon souvenir aussi a posteriori, mais j'ai passé 3 ans en Nouvelle-Calédonie comme responsable de la navigation aérienne et des aéroports à Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna aussi, qui est moins connu, dans la période agitée de 86 à 89. Et effectivement, j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance, mais en fait l'opportunité de vivre ces événements un peu tragiques à la fois, mais aussi à la fin qui se sont bien terminés. Puisqu'en fait, je suis arrivé au moment où Jacques Chirac était nommé Premier ministre de Mitterrand, la première cohabitation. Et j'en suis parti quand Michel Rocard est venu un peu calmer les esprits en 89. Voilà, donc une période un peu agitée, mais de bons souvenirs. Voilà.
Il me paraissait justement important de revenir sur votre parcours parce que quand vous êtes arrivé à Toulouse, bon, vous nous aviez dit précédemment que vous découvriez, enfin, plus ou moins le monde de l'aéroport, en fait, bon, vous le connaissiez quand même quelque peu. Vous avez utilisé 2 fois, je crois, un terme qui est important, qui est celui de la passion. C'est-à-dire qu'en fait, et plus d'une fois, nous avons parlé de la passion dans cette émission L'Oiseau blanc, est au cœur de votre cheminement.
C'est vrai que oui, on est beaucoup de passionnés. Le domaine du transport aérien et de l'aviation civile, finalement, est un monde très, très important en termes de volume de production maintenant avec la montée en puissance d'Airbus, etc. Mais quand on regarde, c'est quand même un monde de passionnés, souvent, et qui est où tout le monde se connaît finalement, parce que quand on y reste un petit moment, on retrouve les gens dans diverses fonctions. Et donc cette passion se nourrit à la fois, parce que c'est passionnant de parler de l'aéronautique, c'est quelque chose qui se développe et qui donne des perspectives, et puis aussi de pratiquer soi-même, ça maintient cette passion. Et c'est vrai que j'ai toujours exercé, j'ai eu la chance d'exercer et d'avoir des conditions qui permettent d'exercer, de travailler, de s'impliquer, mais aussi de le faire avec passion, ce qui est quand même un avantage par rapport à d'autres configurations.
Alors, qui dit passion dit gestion de la passion humaine, et donc il y a aussi le lien dans votre activité avec les ressources humaines que vous avez exercées dans la direction des services de la navigation aérienne.
Oui, c'est vrai que c'est vrai que là aussi c'est de bons souvenirs, mais aujourd'hui ça tombe bien puisque la navigation aérienne est en grève. J'ai eu l'occasion dans mes fonctions, puisque j'étais responsable de la navigation des ressources humaines dans la navigation aérienne, j'ai eu l'occasion de gérer de nombreux mouvement de grève, si j'ose dire. Il y en a un aujourd'hui. Bon, c'est pas le plus simple à gérer. Les contrôleurs aériens en particulier sont une population à la fois très intéressante et techniquement très, très, très pointue, mais aussi un peu compliquée dans sa gestion sociale. Effectivement, j'ai fait ça, mais c'est de bons souvenirs également. C'est de bons souvenirs et ça, en tout cas, ça apprend à écouter, à essayer de trouver les bonnes solutions et à essayer de dégager des consensus quand des fois où c'est pas forcément facile.
Alors toute cette expérience acquise, je crois quelque part, nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de cette émission, mais vous avez parlé de 20 ans, de 20 années sur l'aéroport. Bon, je crois que votre expérience vous a beaucoup servi. Nous allons revenir tout au fil de notre discussion là-dessus. Alors, si vous le permettez, Jean-Michel, je souhaiterais, puisqu'on est un petit peu au cœur de l'actualité dans cet aéroport de Toulouse-Blagnac, il y a un mot qui me vient à l'esprit, qui est celui de la privatisation. Est-ce que vous pourriez nous démystifier un peu ce terme-là, parce que finalement, ce qui est la structure qui existe aujourd'hui, bon, vous êtes président du directoire, je crois que cette appellation vient de ce qui s'est passé après une réforme qui a été mise en œuvre. Vous pourriez nous expliquer un petit peu le cheminement de cette réforme jusqu'à nos jours, en fait.
Alors c'est vrai que les aéroports, bon, quand on dit aéroport, en fait, il y a un amalgame qui est important qui est fait entre la fonction que j'occupe de direction de l'aéroport proprement dit, et puis d'autres, une multitude d'autres acteurs. Simplement pour vous donner une idée, on est l'aéroport de Toulouse-Blagnac aujourd'hui est une entreprise qui compte 300 salariés. On est 300 et en fait, quand on parle de l'aéroport, on ne parle pas de 300 personnes comme ça, on parle de tous les gens qui travaillent à l'aéroport. Et si on additionne sur Toulouse les gens qui travaillent pour le transport aérien, en dehors des activités d'Airbus, bien sûr, qui sont beaucoup plus importantes, il y a à peu près entre 4 500 et 5 000 personnes qui travaillent pour le transport aérien, en comptant les services de l'État, la navigation aérienne, toutes les fonctions. Donc on voit que l'aéroport est un lieu où effectivement il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui se retrouvent pour travailler à l'aéroport. Et ce monde aéroportuaire, l'organisation des aéroports a connu des changements très très importants en France, ce qu'on n'a pas forcément vu. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de blocage, mais tant mieux. Hein. Donc c'est la preuve qu'on peut faire évoluer les choses sans heurts sociales. Les chambres de commerce étaient en charge des aéroports français depuis leur création. Les chambres de commerce, parce qu'ils avaient géré les ports, ils ont géré les aéroports. Donc ce sont des établissements publics. Il y avait une grosse implication de l'État, hein, qui était quasiment propriétaire de tous les aéroports, sachant que les aéroports parisiens avaient un statut un peu particulier d'établissement public. Donc ça a duré jusque au début des années 2000. Et là, au début des années 2000, avec les évolutions qui se sont passées dans l'Europe, etc., le gouvernement a mis en place une réforme, une loi qu'on appelle loi aéroportuaire, en 2005, qui d'une part a créé la structure pour Aéroport de Paris, qui est la structure existante, une structure d'entreprise dont l'État est majoritaire. On parle aussi en ce moment beaucoup de privatisation, hein, donc ça va peut-être évoluer dans le futur, mais aujourd'hui, dans la loi, l'État reste majoritaire à ADP. Et ensuite, les aéroports régionaux ont considérablement évolué, c'est-à-dire qu'on est passé d'un système géré par la Chambre de commerce à une entreprise qui a été créée à Toulouse. On a été parmi les premiers, puisque Claude Terrazzoni, président de la Chambre à l'époque, avait voulu cette transformation. Donc on a créé cette société en 2007, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et cette société avait comme actionnaire au départ, comme tous les... Ça s'est passé dans tous les grands aéroports régionaux, l'État, qui avait 60%, les chambres de commerce 25% et les collectivités qui rentraient à son capital 15%. Et la particularité, c'est que il faut bien que les gens le comprennent, c'est que on est gestionnaire de la plateforme, c'est-à-dire on exploite la plateforme sur une durée dans le cadre d'une concession jusqu'au la nôtre jusqu'en 2046, mais c'est les terrains. Tous les bâtiments appartiennent à l'État. Hein, c'est-à-dire qu'en fin de concession, c'est l'État qui récupère toutes ces installations et en fait l'organise comme il veut. Donc en fait, on a un lien très fort avec l'État, qui est propriétaire, qui nous donne un cahier des charges très précis, c'est-à-dire on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles. Et à l'intérieur de ces règles, on a aussi les régulations sur la partie économique, c'est-à-dire on ne fait pas ce qu'on veut d'un point de vue économique. Donc il faut bien voir qu'on est dans un système, on parle de privatisation, tout ça, mais on est dans un cadre qui est quand même très précis. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que l'exploitation de l'aéroport donc, a été faite par une société privée, mais avec des actionnaires publics, et que l'État, qui était à la fois propriétaire du sol, régulateur et aussi actionnaire principal du gestionnaire, avait déclaré dans la loi 2005 qu'il ne resterait pas dans cette configuration de gestionnaire. Donc l'État, et on a été le premier aéroport à expérimenter cette évolution à Toulouse en 2014, et ça s'est concrétisé en 2015, l'État a vendu ses parts à des actionnaires privés. Et donc c'est comme ça que l'aéroport a aujourd'hui 49,9% d'actionnariat privé, et le reste 10,1% à l'État et la Chambre de commerce 25%, les collectivités 15%. Donc encore aujourd'hui, c'est la majorité publique qui est l'actionnaire principal de l'aéroport, avec un actionnaire privé qui lui est l'actionnaire majoritaire et qui a aussi un rôle important. Et donc, on a expérimenté cette formule qui a été ensuite étendue par l'État, par une loi qu'on appelle loi Macron, hein, il n'était pas président de la République à l'époque, qui a été étendue et même étendue à Nice et à Lyon, et l'État a vendu la totalité de ses parts. C'est-à-dire Nice et Lyon sont gérés en majorité par des actionnaires qui sont des actionnaires privés. Donc voilà, cette évolution, on l'a vécue, on l'a mis en place, et c'était voulu par l'État. Et donc ça en a fait une expérience particulière ici. La particularité de Toulouse, c'est qu'on était le premier, et que la surprise de tout le monde, ça a été que ce sont des actionnaires chinois qui ont acheté les parts de l'État à l'époque. Et donc nous avons des actionnaires chinois, la société s'appelle Casil, qui est en ce moment l'actionnaire principal.
Et donc, en fait, aujourd'hui, on est dans la situation de que vont devenir ces 10,1% qui sont aujourd'hui au niveau de l'État. C'est-à-dire que l'État peut les vendre.
Voilà. Alors, c'est vrai que le cahier des charges que l'État avait diffusé en 2014 disait clairement que il était vendu 49,9%, mais que l'actionnaire qui achetait, enfin, l'entreprise qui achetait ces 49% aurait 3 ans après la possibilité d'acheter, si l'État le décidait, d'acheter les 10% restants pendant une période de 6 mois renouvelable une fois. Et effectivement, le calendrier fait que cette période s'ouvre, si j'ose dire, en avril prochain, le 16 avril. L'État aura la possibilité, réglementairement, hein, tout ça c'est des textes réglementaires, c'est bien écrit, a la possibilité de vendre les 10% restants à l'actionnaire qui a acheté les 49%, donc Casil Europe, l'actionnaire chinois. Donc c'est effectivement une phase importante pour l'aéroport parce que à ce moment-là, s'il est avant, eh bien, on aura une majorité d'actionnaires privés, comme c'est aujourd'hui à Lyon et à Nice.
Donc en fait, l'État a une fenêtre de tir d'un an, deux fois, une fois six mois renouvelable.
Voilà, c'est aujourd'hui pour vendre à cet actionnaire-là, sachant qu'après, si jamais il ne vend pas, ce qui semblerait, d'après les informations qui ont été diffusées récemment par la presse, ce qui semblerait être la position de l'État aujourd'hui, après il en fera ce qu'il voudra. Il peut les vendre aussi, mais les vendre différemment, si j'ose dire, de façon non fléchée par rapport à l'actionnaire actuel.
Alors, ce qui est quand même, je dirais, particulier, c'est que vous avez...
J'allais dire très, très interactive, puisqu'avec, encore une fois, avec Claude Terrazzoni, on a été très impliqués. Alors, c'est vrai que vous parliez de mon parcours, c'est pas habituel de commencer comme fonctionnaire de l'État, d'y passer un certain nombre d'années, d'aller dans une chambre de commerce et puis de finir avec des actionnaires chinois. Bon, c'est la vie. Mais par contre, l'évolution qui a eu lieu en 2005, les chambres de commerce y ont beaucoup travaillé, c'est-à-dire ont beaucoup contribué à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe un peu dans la continuité, puisqu'il aurait pu y avoir des ruptures plus importantes. Alors, c'est vrai que c'est passionnant, parce que ça a été passionnant, parce que nous avons créé cette société, les personnels qui étaient quand même chambres de commerce, donc avec un statut public, sont tous passés à un statut privé, que l'on a... On a rejoint une convention collective, la convention collective du transport aérien. Donc tout ça s'est passé et il a fallu expliquer, vendre, si j'ose dire, mettre en place toute cette structure. Et c'est vrai que ça a été une période passionnante. Ça l'est toujours, puisque vous voyez, on parle toujours de l'actionnariat, des évolutions. Donc la période passionnante n'est pas terminée. Et puis il n'est pas écrit aujourd'hui comment sera géré l'aéroport demain. Sauf qu'on sait que c'est par une société, qu'on ne connaît pas, l'actionnariat de demain, mais on sait que... Parce que cette réforme a quand même eu un effet très bénéfique, c'est qu'elle a impliqué les collectivités territoriales, donc la région, la métropole et le département, dans la gestion de l'aéroport, alors qu'avant, ils étaient complètement... Ils en étaient assez éloignés, hein, puisque c'était la chambre toute seule qui était concessionnaire de l'État. Donc, on a ce mixte entre public-privé, qu'il faut faire fonctionner, qui doit fonctionner, puisque quand même un aéroport, à la base, c'est un outil au service de l'économie du territoire. Ça n'a de sens que comme ça. On ne développe pas un aéroport pour le plaisir de développer.
On est finalement pas très loin d'une notion de service public, quelque part.
Ah ben on a, nous, notre convention de concession nous donne un rôle de service public. Ça, c'est clairement, on est un service public, on rend un service public, mais dans une structure qui, aujourd'hui, est encore un peu public, mais pas tout à fait. Donc c'est un exemple de service public rendu par des sociétés qui certainement vont être actionnariat privé majoritaire.
Mais c'est quand même un sacré challenge d'avoir cet objectif de service public et puis à la fois d'avoir la question économique derrière et le bénéfice.
Oui, bien sûr, parce qu'il faut bien comprendre que celui qui a fait une bonne opération dans l'affaire, c'est quand même l'État, puisque l'État a récupéré l'aéroport et a vendu son exploitation assez cher à l'époque, et il a vendu l'exploitation de Nice et de Lyon. Donc l'État a vendu, il a retiré de l'argent. Pour donner un ordre d'idée, quand même, la privatisation des trois aéroports, Nice, Lyon et Toulouse, a rapporté à l'État environ 2 milliards d'euros. On voit que celle d'ADP, si ça suit le même processus, en rapportera beaucoup, un peu plus, à peu près 7 à 8 milliards. Donc 2 milliards d'euros, c'est pas neutre, c'est pas neutre, et c'est l'État qui en a profité. Alors c'est vrai que les actionnaires privés qui ont acheté, comme tout actionnaire privé, qu'il soit chinois, français, anglais ou n'importe quoi, bien sûr, ils ont le souci de retrouver une certaine rentabilité de leur investissement. Donc,
excusez-moi Jean-Michel, je vous interromps, d'autant plus que l'investissement, le retour sur investissement, si j'ai bien compris, c'est que dans la vente, leur offre était quand même bien supérieure, quasiment de 20% aux autres offres.
Oui, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle l'État a choisi les actionnaires chinois, c'est qu'effectivement, ils offraient beaucoup plus que les actionnaires partenaires, que les candidats français qui étaient présents. Il faut savoir, si on replace ça dans un contexte plus européen, le marché, enfin, les infrastructures sont quelque chose d'assez couru par les investisseurs parce que c'est des investissements de long terme qui rapportent, mais aussi qui ont une vision à long terme. Et les aéroports sont aussi un bon investissement parce qu'il y a une croissance du trafic qui varie, mais qui peut être très importante, donc une croissance de l'activité. Donc c'est vrai que les investissements aéroportuaires sont assez recherchés. Et à l'époque, on était le premier aéroport français à être vendu. Et donc l'État a fait une bonne opération parce qu'il a vendu plus cher que ce qu'il espérait. Par derrière, d'ailleurs, ça a été confirmé pour les aéroports de Lyon et de Nice qui ont été vendus encore un peu plus cher. Donc c'est vrai que les investisseurs, ils ont payé relativement cher. Donc, bien sûr, ils sont soucieux d'avoir un retour sur investissement. Mais néanmoins, dans un cadre d'une gouvernance qui est une gouvernance privée-publique et dans le cadre d'un service public que l'on doit rendre du mieux possible. Donc, c'est la particularité de cette relation un peu particulière entre les actionnaires qui doit fonctionner. Et encore une fois, en ayant dans l'esprit qu'un aéroport, la finalité, c'est de se développer au service de l'économie et du territoire en général, pour créer des liaisons, pour créer de la connectivité et aider les entreprises à fonctionner et aussi les particuliers à voyager, puisqu'il y a quand même un développement très fort du tourisme. Donc c'est un enjeu service public, une mission au service de la région, et de la, quand je dis région, c'est la région au sens physique du terme, et avec des actionnaires privés. Donc c'est un challenge assez intéressant. Il faut trouver les bons équilibres. Je ne sais pas dire aujourd'hui si les équilibres ont été trouvés aujourd'hui, puisque bon, ça peut évoluer, mais en tout cas, il faut les trouver de façon à ce que chaque des actionnaires s'y retrouve, c'est-à-dire que les collectivités et la chambre de commerce aient l'impression que c'est géré comme il faut, bien géré, mais aussi en tenant compte à long terme de l'objectif de développement au service de l'économie, et l'actionnaire privé bien géré pour récupérer un peu sa mise, si j'ose dire.
Alors, cette récupération de mise, il y a une négociation et vous êtes au cœur de cette négociation au niveau du directoire, voire du conseil de surveillance.
Oui, je dois dire que premièrement, on est au cœur par le fait que toutes les équipes de l'aéroport, et on a depuis 3 ans que les actionnaires privés sont arrivés, on a eu plusieurs changements. On a eu ce changement en 2007 de structure, mais l'arrivée d'actionnaires privés a certainement été un changement plus important dans l'esprit, dans la mentalité. Donc il faut développer encore un peu plus les revenus, encore une fois aussi contrôler les coûts pour sortir un meilleur résultat. Il n'y a pas de solution miracle. Et c'est vrai qu'on est au cœur de cela. Les équipes de l'aéroport sont très mobilisées là-dessus, pour à la fois améliorer, puisqu'on va voir les travaux, donc améliorer le fonctionnement de l'aéroport, et améliorer aussi les revenus que ça donne, et le faire dans un principe économique qui s'est un peu resserré, il faut le dire. Donc il ne faut pas oublier toutes ces équipes, ces 300 personnes qui ont vécu ces modifications et qui sont toutes passionnées pour rendre un service meilleur.
Alors, Jean-Michel, nous allons nous poser, nous, et nous allons vous proposer à nos auditrices, auditeurs, notre petite pause musicale habituelle qui est choisie par vous, Jean-Michel. Et pouvez-vous nous présenter votre choix ?
Alors, c'est vrai que vous m'avez demandé avant l'émission qu'est-ce que je choisissais. Et c'est vrai que pour être, à la fois dans notre période et puis aussi un peu dans l'aspect un peu moderne, j'ai choisi, je vous ai demandé de retenir Queen, donc Queen avec un titre qui est particulier, qui est très très un peu curieux à l'époque, qui s'appelle Bohemian Rhapsody. Donc voilà. Donc mon choix, c'est j'aime la musique, je suis pas un mélomane affirmé, mais j'aime bien Queen et cette musique est très et mélange un peu tous les genres et donc c'est pour ça que je l'aime bien.
Et chanté par Freddie Mercury, si
Mercury,
je me trompe.
Voilà, qu'on n'oublie jamais.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Jean-Michel, dans cette chanson, il y a des phrases qui ont retenu mon attention. Goodbye everybody, I have got to go. Au revoir à tous, je dois y aller. Gotta leave you all behind and face the truth. Je dois tous vous laisser derrière et faire face à la réalité. Nothing really matters, nothing really matters to me. Rien n'est vraiment important, rien ne m'importe vraiment. Et enfin, anyway the wind blows. De toute façon, le vent souffle. Alors, avant de poursuivre notre discussion, faut-il y voir un clin d'œil de votre part ?
Non, pas, franchement, pas tellement. Je pense que la fin de ce que vous venez de lire est intéressante, puisque effectivement, on sait bien que nous, dans l'aéronautique, le vent souffle et que les avions volent. Donc, c'est ce qu'on peut retenir. Mais sinon, sur le reste, pas forcément.
Bon, donc nous allons revenir après avoir placé ce cadre de l'aéroport aujourd'hui dans sa partie exploitation. Et je vais quand même, pour nos auditrices, auditeurs, et pour l'avoir vécu, on parlait de la Chambre de commerce tout à l'heure. En fait, la Chambre de commerce et industrie de Toulouse, on avait sur nos différents contacts avec l'aéroport CCIT. Aujourd'hui, on a ATB, aéroport Toulouse-Blagnac. Et ATB, c'est bien en fait la structure que nous avons décrite tout à l'heure.
Tout à fait. C'est la Chambre de commerce est maintenant actionnaire, c'est un actionnaire important, 25% de l'aéroport, et joue son rôle d'actionnaire en représentant l'économie, hein, puisque c'est le rôle de la Chambre de commerce, c'est de représenter le monde économique. Et je pense que c'est un bon dosage entre la représentation du monde politique local, la représentation du monde économique, et puis effectivement un opérateur, hein, puisqu'il faut un opérateur privé, ça donne quand même, et ça a amené à certainement un peu plus de rigueur dans la gestion, un peu plus d'ouverture sur certains aspects. Donc il faut marier tout ça, et la Chambre de commerce a un rôle important.
Alors,
Je souhaitais revenir sur ATB, Aéroport Toulouse-Blagnac, qui est rentré dans la gestion de Toulouse-Francazal, me semble-t-il. Vous pourriez nous dire où nous en sommes aujourd'hui avec cet aéroport de Francazal, et pour nos auditrices, auditeurs qui sont en dehors de la région Occitanie, et il y en a, cet aéroport était militaire, hein, encore à une période récente. Et bon, alors quels sont aujourd'hui les objectifs avec cet aéroport ?
Alors juste pour faire un peu d'histoire, pas trop long, la base de Francazal est quand même la base la plus ancienne de France, hein, il faut dire. Et donc le ministère de la Défense a décidé, à la fin des années, avant les années 2008-2009, de fermer cette base qui était une base école. Donc l'aérodrome de Francazal est la première plateforme de Toulouse, hein, puisque commercial. Il y a eu Montaudran pour certains vols, mais l'aspect commercial a commencé à Francazal avant d'être à Blagnac. Il a été question à l'époque, on peut s'en souvenir, de détruire l'aéroport et d'en faire une espèce de ville, hein, de nouvelle ville. Je crois qu'il y a eu un certain nombre de voix, dont celle de l'aéroport, pour dire attention, avant de démolir un aéroport, de détruire un aéroport, on voit que, avec l'exemple récent de Notre-Dame-des-Landes, on a beaucoup de mal à en créer. Il faut peut-être réfléchir. Et donc, la réflexion qui a été menée a conduit à garder, soutenue par beaucoup de monde, et en particulier tout le monde aéronautique, de garder cette plateforme et de lui donner une vocation qui est double. C'est une vocation d'aviation d'affaires et une aviation industrielle. Et bien sûr, de garder, et ça c'est important aussi, de garder un point d'appui très important pour nos armées, puisque vous savez que de Francazal, dans le sud-ouest, on a quand même les régiments qui sont projetés à l'extérieur et ils partent de Francazal. Hein. Donc c'est important d'avoir cette idée-là. Donc l'État, à ce moment-là, nous, on était intéressés, et puis naturellement, ça semblait assez naturel que l'aéroport Toulouse-Blagnac gère aussi Francazal, pour avoir une communauté de vue et de développement. Bon, il se trouve qu'au gré de l'appel d'offres lancé par l'État, nous avons décidé de nous allier à quelqu'un plutôt que d'aller tout seul et au risque de ne pas y être. Pour nous, c'était important d'être présent à Francazal de façon à regarder et en définir la stratégie de développement. Donc c'est ce qui se passe. Nous sommes actionnaires avec la Chambre de commerce à hauteur de 49%, donc 39% pour ATB et 10% pour la Chambre de commerce. Et là, l'opérateur, qui a 51%, est une société privée qui maintenant s'appelle EDIS, hein, qui a été une nouvelle appellation puisque c'était avant SNC-Lavalin. Donc EDIS est l'opérateur et nous-mêmes, donc, nous sommes conseil de surveillance avec ce rôle d'actionnaire et un rôle important puisque on a notre mot à dire sur la stratégie de développement. Et l'aéroport de Francazal, l'activité est essentiellement militaire. L'activité aviation civile se développe, mais assez gentiment, si j'ose dire, sur l'aviation d'affaires qui va se développer, mais sans pour autant atteindre des... On n'a pas une aviation d'affaires très développée sur Toulouse. Et puis, il y a le volet industriel qui est très important, puisque on a quand même des hangars superbes qui datent d'avant la guerre, qui ont été bombardés, et donc, vous voyez, mais qui sont bien sûr remis en état, et dans lequel il y a des sociétés qui ont besoin de la piste pour faire leur activité. En particulier, aujourd'hui, il y a ATR qui s'est installé et qui se développe là-bas, mais pas que ATR. Et donc ça, c'est un bon signe, puisqu'ils développent toutes leurs activités de réparation, de maintenance et de modification, mais aussi des activités avec l'opérateur qui est installé à Tarbes, Tarmac, pour peindre des avions, des activités de peinture, des activités d'entretien. Et tout ça se développe et ça donne aussi un complément. Et nous, on est là aussi pour assurer la complémentarité avec le développement de Toulouse-Blagnac, qui est quand même, comme vous le savez, très occupé physiquement par Airbus, hein, puisque quand même l'essentiel du territoire autour de l'aéroport est un territoire Airbus.
Ce qui est une particularité d'un aéroport, d'avoir à la fois la partie commerciale, aviation générale, et puis donc la partie
constructeur. C'est vrai qu'il faut le souligner, parce que je pense qu'on est le seul aéroport en Europe, et enfin, peut-être un peu Bordeaux, mais pas à un moindre niveau, à avoir une telle activité constructeur sur un aéroport ouvert ou civil, si j'ose dire, hein, donc un aéroport qui est destiné à traiter du passager. Et cette cohabitation est très, très importante, puisque est stratégique pour l'industrie française. Donc effectivement, on travaille très étroitement avec Airbus, aussi bien sur la partie vol, pour la partie essai, que sur la partie occupation du terrain, puisqu'ils ont des besoins de développement et qu'il faut bien sûr prendre en compte dans le développement de l'aéroport.
Alors, malgré ces contraintes, quelque part, d'exploitation, et je souhaite maintenant aborder avec vous la partie, je dirais, plus opérationnelle, les compagnies aériennes, les passagers, les possibilités de voyage. Alors, je vais m'appuyer sur deux exemples, Jean-Michel. Je vais faire un peu de bruit pour nos auditrices auditeurs. J'ai un porte-clés qui est ici. Alors, je l'ai gardé un petit peu, mais j'ai eu l'occasion de le récupérer en 1996 par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Et sur ce porte-clés, c'est difficile à voir, mais il y a marqué 4 millions de passagers. Alors, c'est mon premier chiffre, 4 millions de passagers, 1996. En 2017, Blagnac, 9 millions 2.
Oui.
Je crois que Blagnac a passé Marseille.
Voilà, c'est ça, on est... troisième aéroport régional, donc effectivement une croissance à l'image du transport aérien. Hein. Donc, 96, c'était un peu plus de 20 ans, donc on a plus que doublé le trafic. Je crois qu'au niveau mondial, c'est à peu près les mêmes choses, hein, tous les 20 ans, un doublement du trafic. Alors après, on va voir dans les 20 prochaines années. Et c'est vrai qu'on s'est développé, Blagnac s'est développé et continuera à se développer. Et je crois que tout ça, encore une fois, ce développement, ce n'est pas fait pour le plaisir de décompter les passagers. C'est fait parce qu'il y a des besoins, parce que la clientèle change, la clientèle évolue, il y a des besoins nouveaux. Et l'aéroport doit y répondre.
Le développement, si encore une fois mes informations sont bonnes, je crois qu'on est à plus de 14% d'augmentation en 2017. Donc on voit bien la croissance. Et mon dernier exemple, là en tant que passager, j'étais à Blagnac encore récemment, un dimanche. Et lorsqu'on est face à l'aérogare, le hall A sur la gauche, le B, le C, le D, et on voit des travaux, je dirais... un peu partout, ce qui n'empêche pas le passager de parcourir l'aérogare en toute tranquillité. Pourriez-vous nous préciser où vous en êtes de tous ces travaux ?
Alors, c'est vrai qu'un aéroport, c'est quand même souvent un chantier. Donc, et le nôtre, eh bien, pendant un certain temps, on n'a pas eu trop de travaux. Et puis là, on est rentré il y a maintenant un peu plus de 2 ans, on est rentré dans une phase de travaux relativement intense. Et qui vont conduire à la fin de l'année 2018 à avoir pour le passager un aéroport, j'allais dire, complètement nouveau, une fois qu'il aura passé la sécurité, la sûreté. Donc, grosse transformation avec de la construction à droite, au sud et au nord, pour étendre nos surfaces. L'idée, c'est d'avoir, et va ouvrir très prochainement, au mois d'avril, la première partie de ces travaux va être terminée, va ouvrir au public, avec un nouveau poste, un nouveau point de passage sécurité. Vous savez que la sécurité, la sûreté, c'est quand même un point très important aujourd'hui, et c'est-à-dire très contraignant aussi pour le passager, parce qu'il faut se déshabiller, il faut tout enlever. Donc on a construit, on a imaginé quelque chose qui est un espace très, très grand, très large, très agréable, en tout cas beaucoup plus agréable que ce qu'on avait, pour passer les flux du mieux possible. Et derrière, eh bien, effectivement, l'aéroport se transforme pour donner beaucoup plus de services et beaucoup plus d'opportunités aux passagers qui passent dans l'aéroport d'avoir un certain nombre de services. Alors, ça va ouvrir. On va ouvrir aussi en avril ce qu'on appelle un duty-free, c'est-à-dire les espaces où vous pouvez acheter les parfums, les tabacs, les choses traditionnelles dans les aéroports. Ouvrira ensuite tout au long de l'année toutes des zones où il y aura une grosse partie de commerce divers et variés, avec des enseignes importantes, internationales, et aussi beaucoup plus de restauration, puisque en fait, on se rend compte aujourd'hui que le passager aime consommer à la fois
et avoir de la l'occasion d'opportunité de déjeuner ou de dîner et de consommer beaucoup plus une fois qu'il est tranquille, c'est-à-dire qu'il a passé tous les contrôles, ses bagages sont enregistrés et il va monter dans l'avion. Donc là, il est plus détendu et il a possibilité de plus consommer. Donc on va doubler, même plus que doubler, toutes ces surfaces commerciales de restauration avec... Je pense qu'à la fin, on va alors avoir à la fois en 2018 des nouveautés et puis des périodes de travaux intenses. Donc, ce ne sera pas forcément facile toujours à vivre pour les passagers, mais on va essayer de le faire du mieux possible. Mais à la fin de l'année, on aura un aéroport transformé et certainement, enfin, je le crois profondément, très agréable pour le passager. Et ensuite, quand vous arrivez à l'aéroport, il y a quelque chose d'un peu massif, mais je pense assez symbolique, mais assez aussi... esthétique, qui va ouvrir à la fin de l'année. C'est un hôtel qui sera en connexion avec l'aéroport, un hôtel 4 étoiles, 150 chambres, qui est en construction aujourd'hui, qui ouvrira aussi en fin d'année. Donc en fin d'année, on peut dire qu'on aura un nouvel aéroport, même si l'extérieur un peu ressemblera, mais tout le parcours du passager sera nouveau. Donc voilà les travaux que l'on fait, qui ont été lancés, ces travaux, par les actionnaires chinois, pour justement... dynamiser et créer beaucoup plus de surface commerciale, tout en donnant bien sûr le service aux passagers et augmenter la capacité de l'aéroport pour le développement futur.
Et dans tous ces travaux, ce que j'ai noté également, et j'en profite pour dire que votre communication au niveau de l'aéroport est de bonne qualité, parce que lorsqu'on recherche de l'information, on la trouve. Alors j'ai vu que votre slogan, c'est plus de services, vous nous en avez parlé, plus de destinations, plus de shopping, et que l'objectif était finalement d'aller vers une possibilité de gérer 12 millions de passagers.
Voilà, on est aujourd'hui, ce qu'on construit aujourd'hui nous permettra de traiter à peu près 12 millions de passagers. Donc on est à 9,2 cette année, 12 millions. Bon, on va voir. On va pas croître de 15% par an tous les ans. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Donc, 12 millions de passagers, c'est à l'horizon, je vais dire, entre 2023 et 2025, quelque chose comme ça. Mais donc, c'est assez proche. Et bien sûr, pour tous ces passagers supplémentaires seront liés à des nouvelles destinations. On essaie, vous savez qu'on a beaucoup développé l'activité low cost, puisque c'est l'activité low cost, le point-à-point européen qui permet d'aller de Toulouse directement à un certain nombre de destinations, qui se développe en Europe, qui s'est beaucoup développé ici à Toulouse, qui continuera à se développer, mais on va essayer aussi, et ça a commencé, de développer une activité de vol point-à-point long courrier, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des destinations dans lesquelles on monte dans un avion long courrier et qui va à destination directement. On a aujourd'hui des nouveautés sur les dom-toms, sur les Antilles, sur la Réunion. Et on espère, dans les prochaines années, on y travaille fort, d'avoir des destinations directes sur, d'une part, les États-Unis. On travaille beaucoup sur les vols avec la Chine, puisqu'on est un actionnaire chinois. On espère le concrétiser peut-être l'an prochain. Et aussi d'autres destinations qui se développent. On parle vers l'Afrique, on a beaucoup d'Afrique du Nord, on n'a pas d'Afrique centrale, on va développer certainement, on aura de bonnes nouvelles très prochainement, j'espère, sur la liaison avec Dakar. Donc vous voyez, les aéroports régionaux en France sont petits par rapport à la taille des régions si on les compare au niveau européen. Toulouse n'est qu'à peu près au 50e rang des aéroports européens. Donc ces aéroports régionaux vont se développer avec le développement de l'activité et concourt au développement de l'activité économique. Donc, pour les développer, il faut s'ouvrir assez largement sur l'Europe et le court moyen courrier, mais s'ouvrir aussi sur le long courrier, qui jusqu'ici est desservi, on est très bien desservi sur le long courrier, mais il faut passer par un hub, il faut passer par Paris, il faut passer par Francfort, il faut passer par Amsterdam, par Londres, par Madrid. Et donc, demain, on va toujours se développer, passer par des hubs, parce que c'est un peu le modèle dominant sur les longs courriers, mais aussi avoir des vols directs qui permettent de pas de se demander si la valise suit parce qu'elle est dans l'avion, donc enfin, tout qui sont quand même très appréciés par les passagers. Donc le développement va se faire vers ces deux vecteurs d'activité, et il faut dire que pour cela, pourquoi ça va se développer? Parce qu'il y a des avions qui sortent en particulier de chez Airbus. Il a volé tout à fait dernièrement le 321 Long Range, et qui va permettre, avec des avions pas trop gros, de faire des longues distances. Parce que c'est vrai que
les avions qui font des longues distances sont des avions plus gros. Et d'un aéroport comme Toulouse, ce n'est pas forcément facile de remplir dès le début un avion de 350 ou 400 places. Donc, c'est plus facile d'en remplir un de 200, 250 places. Et c'est, je pense que ces vecteurs aériens vont aider au développement des liaisons point-à-point long-courrier.
Vous confirmez le ressenti des passagers et du passager que je peux être. C'est vrai que de manière régulière, on découvre de nouvelles destinations. Et quand on creuse, pardonnez-moi du terme, on en trouve.
Oui, tout à fait. Puisque là, par exemple, sur la saison, on a une saison été qui dure... Dans l'aéronautique, c'est bien, on a un été qui dure 7 mois et un hiver qui dure 5 mois. Donc, dans la saison été qui vient de commencer, qui commence dans 15 jours, on aura un peu plus de destinations à Toulouse, un peu plus de vols, plus de fréquences, des nouvelles destinations, surtout des destinations soleil, des destinations vacances. Il faut savoir que la clientèle toulousaine, maintenant, s'équilibre entre trois vecteurs, les vecteurs loisirs, les gens qui volent pour leur loisir, à l'import et à l'export. Et il faut développer l'import pour développer le tourisme ici. Le secteur des visites chez les parents qui occupe aussi un gros tiers, hein, donc les enfants qui voyagent tout seuls, les parents, les grands-parents qui vont garder, enfin, etc. Toutes ces relations familiales. Et le tiers qui reste fort et qui reste une spécificité toulousaine, une caractéristique toulousaine, c'est l'aviation d'affaires qui est quand même très importante aussi puisque les revenus qu'en tirent les compagnies sont en général plus importants. Donc ça s'équilibre aujourd'hui et on voit que le développement du tourisme et le développement des voyages pour aller voir la famille, aller voir les parents et les amis se développe fortement.
Alors, il y a ceux qui ont envie de voyager et Jean-Michel, vous nous donnez envie de voyager. Après, il y a toutes les contraintes qui sont associées. Alors, il nous reste quelques minutes, 5 minutes environ. Alors, qui dit contrainte, je pense à la partie environnement, la partie bruit. On a parlé à une certaine époque, troisième aéroport. Alors, pardonnez, ma question est assez large. Le sujet, il nous reste peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire...
C'est vrai que l'aéroport, l'aéroport suppose un certain nombre de contraintes. Les avions font du bruit. Ils en font beaucoup moins. Ils en font 4 fois moins, grosso modo, qu'il y a 30 ans. Mais ils font quand même du bruit. Et donc, on a un certain nombre de nuisances. Et l'aéroport de Toulouse est un aéroport urbain, puisque effectivement, on est très près de la ville. Et on a beaucoup de riverains qui sont concernés par le bruit. Donc, c'est vraiment une préoccupation. Et c'est vrai que l'aéronautique ne se développera que s'il y a une acceptation et s'il y a une prise en compte de ces problèmes de bruit, mais aussi plus largement de CO2, etc., puisque c'est maintenant aussi un point fort. Donc l'environnement est au cœur de nos préoccupations. On essaie de faire ce qu'on veut, ce qu'on peut et ce qu'on doit faire. Je crois qu'on s'y efforce. En particulier, on a un travail sur les vols de nuit qui est très important, puisque effectivement, la nuit, ça gêne encore un peu plus. Et il faut être très vigilant parce que le développement doit se faire en compatibilité avec les contraintes que nous avons. On a aussi d'autres contraintes. Hein, vous savez, c'est aussi la sécurité qui est la fonction première de l'aviation et qui est au cœur de nos préoccupations, avec la sûreté, c'est-à-dire tous les contrôles qui sont faits. Et maintenant, d'ailleurs, à cause du terrorisme, des contrôles police, les contrôles de passeport qui sont maintenant élargis à l'espace Schengen. Et c'est vrai que tout ça, il y a à la fois les contraintes extérieures, donc l'environnement et comment l'aéroport se développe dans la ville, et les contraintes liées à nos métiers, qui sont des contraintes qu'on essaie d'alléger et qu'on espère que la technologie va faciliter demain, de façon à ce que la vie du passager soit un peu moins compliquée quand il arrive à l'aéroport.
Alors que c'est vrai, quand vous parlez de contraintes à la sortie, le contrôle, le passeport... On attend moins à Toulouse qu'à Roissy, hein, souvent.
Oui, mais on attend quand même beaucoup à Toulouse de temps en temps. Et là, on est en train de... Il y a des travaux en cours pour développer des systèmes automatisés qui aillent plus vite et qui permettent de passer plus vite. Bon, on souhaite aussi qu'il y ait les forces de police qui aillent bien pour... Et on travaille étroitement avec eux pour essayer de travailler du mieux possible.
Alors, Jean-Michel, on a beaucoup parlé, bien évidemment, de la croissance et on s'est appuyé sur les termes de l'augmentation du nombre de passagers.
Et il y a aussi la question des mouvements sur la plateforme, alors ce qu'on appelle un mouvement, un décollage, un atterrissage. Alors comment s'envisage la progression du trafic sur l'aéroport de Toulouse ?
Alors on a la chance ces 20 dernières années d'avoir vécu une période pendant laquelle le trafic est passé de 5 millions de passagers à 9 millions, avec le même nombre de mouvements d'avions. Et ça, pour les riverains, c'est quand même important, puisque c'est l'avion qui fait du bruit, ce n'est pas les passagers. Donc, le développement s'est fait comme ça. Pourquoi ? Parce que les avions ont grossi. Ils n'ont pas fait forcément plus de bruit en grossissant, hein, mais et ils sont mieux remplis. Donc ça va vers même nombre de mouvements d'avions aujourd'hui que ce qu'on avait en 2000, avec 80% du passager en plus. C'est quand même bien. Bon, dans l'avenir, la croissance du trafic, du nombre de mouvements, va pas être proportionnelle au nombre de passagers, puisqu'on a des tendances qui sont grosso modo moitié, mais il y aura une augmentation du nombre de mouvements, donc il faut être très attentif aux trajectoires, au respect de certaines périodes, en particulier la nuit, où effectivement c'est un peu plus compliqué. Donc il faut prendre en compte ces problématiques. La capacité physique de l'aéroport n'est pas en cause, c'est-à-dire les deux pistes que nous avons avec l'environnement de navigation aérienne nous permet de nous développer sans contraintes majeures. Par contre, il faut tenir compte de ces contraintes extérieures pour le développement futur. Donc on a quand même, Blagnac a de quoi se développer, des possibilités de se développer. Et je crois pas pour ma part que nous aurons un autre aéroport que Blagnac dans les 50 prochaines années.
Oui, un aéroport qu'on avait envisagé les années 90.
Qui est aujourd'hui un projet qui n'existe plus.
En tout cas, cette question environnementale, c'est un sujet que vous coordonnez depuis quasiment une trentaine d'années maintenant.
Oui, tout à fait. Et puis en particulier depuis 20 ans, puisque vous savez qu'il y a une haute autorité qui s'occupe des nuisances aériennes. Et c'est vrai qu'il faut être très attentif à cela, avec en particulier les élus et les associations.
Une autorité qui est particulière à la France, en fait.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Alors, notre entretien arrive malheureusement à sa fin. Merci encore, Jean-Michel, de nous avoir permis de vous entendre, de nous avoir aidé à mieux percevoir les enjeux actuels de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, de nous avoir levé un voile sur l'avenir de celui-ci. Je crois comprendre que vous allez rester encore quelques temps dans vos fonctions de président du directoire, rapidement.
Alors d'abord, merci à vous, merci de votre invitation, merci d'avoir pu parler et expliquer un peu l'aéroport. Donc c'est, pour ma part, quand on a décrit mon parcours, c'est vrai que j'ai un peu d'ancienneté, comme on dit, hein, donc à un moment donné, il faut s'arrêter. Et je pense que j'aurai un successeur à la tête de l'aéroport très bientôt et que donc je m'occuperai différemment de ma passion et je vivrai ma passion un peu différemment que celle de diriger l'aéroport. Mais bon, ça fait partie des évolutions normales dans la vie. Et j'espère que, en tout cas, je suis sûr que toutes les parties prenantes feront évoluer l'aéroport comme nous l'avons fait ces dernières années, dans le bon sens du terme, avec encore une fois, cette année 2018, des choses importantes avec des nouvelles mises en service et que chacun se rende compte de l'évolution de l'aéroport et qui continuera à évoluer dans le futur. Donc voilà, pour ma part, mon parcours va se terminer à l'aéroport, mais bien sûr que je le regarderai d'un œil attentif depuis Blagnac, puisque je suis Blagnac.
Alors permettez-moi de vous souhaiter déjà bon courage dans la poursuite de vos activités au niveau de l'aéroport et quand le moment sera venu de quitter vos fonctions, encore une fois, après presque 20 années. Permettez-moi de vous souhaiter, comme dans la marine, bon vent et bonne mer. Et je dirais que j'ai l'impression que cet aéroport de Toulouse-Blagnac vous doit beaucoup.
Merci. Surtout, il doit beaucoup à l'équipe qui y travaille.
Mais vous savez, vous savez gérer les équipes, je crois l'avoir compris. C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à notre veille technique Jean-Louis Arzac. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les précédentes déjà diffusées sur le site de la station ou la page Facebook d'Esprit Occitanie, la radio à la carte. Bonne soirée à toutes et à tous.
et à bientôt avec l'Oiseau Blanc.